La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Ici, c'est une rizière pour la culture à la saison des pluies. Toi et 5000 autres personnes avaient un destin commun. Comme toi, elles vivent enfouies sous ce lopin de rizière, battues par les vents, écrasées par la chaleur du soleil et inondées par la pluie. Avec la charrue, le bruit du pas des bœufs et les agriculteurs misérables qui travaillent activement, sans jour de repos et presque rien en retour. J'espère que toi et les autres milliers de personnes êtes heureuses quand vous sentez l'effluve parfumée de la saison fraîche, ainsi que la senteur suave des fleurs de manguier en décembre et janvier.
En cette journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, la Marche du Monde a monté son studio dans le centre d'art Faux Mouvement, ici à Metz, une ville de l'Est de la France. C'est ici que sont présentées les œuvres d'une dizaine d'artistes cambodgiens et tous interrogent la relation entre les paysages éternels de leur Asie natale et la mémoire du génocide perpétré par les Khmers Rouges entre 1975 et 1979. Le paysage après coup, c'est donc une exposition d'art contemporain, mais aussi un colloque international où les chercheurs interrogent la relation entre paysage et mémoire à travers le XXe siècle. Et tout de suite, le paysage après coup, c'est une émission de radio sur RFI, parce que pour être regardé, un paysage doit aussi être écouté.
J'ai entendu dire que l'épanouissement de ces deux manguiers Pomsen est dû exclusivement aux engrais humains de ces 5000
âmes.
Au début des années 1980, certains de ceux qui venaient de sortir de l'enfer étaient complètement désespérés. Ils entendaient de la musique funèbre presque partout. Ce désespoir immense a poussé ces hommes qui venaient de sortir de l'enfer à se prendre en main et à retourner la terre pour tenter leur chance. Seulement, ils n'ont découvert que des haillons, de vieux lambeaux de vêtements pourris, des tas d'os et l'odeur putride des restes humains sur le point d'être méconnaissables. Est-ce qu'ils ont creusé chez toi? Mes parents ont dit que tu te trouves assez loin des autres.
Le monologue de l'artiste cambodgien Ratana Vandi, une vidéo d'un artiste né en 1980. Un an après la fin du pouvoir génocidaire des Khmers Rouges, des images et du son entre les oreilles de nos trois invités. Soko Fai, historienne de l'art et initiatrice de cette réflexion entre le paysage et la mémoire. Bonjour Soko.
Bonjour Valérie.
Annette Becker, historienne spécialiste de la Grande Guerre et des violences extrêmes, à travers notamment les œuvres plastiques et photographiques. Bonjour Annette.
Bonjour Valérie.
Et enfin Luba Jurgensson, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes traductrice, auteure et spécialiste de la littérature de la répression stalinienne. J'aimerais donc commencer par vous demander ce que vous avez entendu lors de cette bande-son signée Ratana Vandi, Luba Jurgensson.
Bien, moi je suis frappée par cette façon de s'adresser aux morts. C'est la première chose qui me vient, ce tu qui met en question le jeu, nous pose une question sur le dialogue, et notamment le dialogue entre Le paysage est celui qui le contemple. Le paysage dans des lieux où le sol recouvre des ossements. Voilà, où on marche sur des humains qui sont là. Comment ce paysage nous dit-tu aussi ?
Annette Becker, votre réaction est chaude sur cet extrait.
Ce qui m'a frappée avant la traduction, c'est la beauté de la langue pour nous qui ne la comprenons pas. La beauté de la façon dont l'artiste prononce les mots qu'il a à prononcer. Et ensuite, quand on a la traduction, on voit l'horreur de ce qu'il a dit, mais il rend, parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui lui est proche, je crois à sa sœur, du coup, il rend en même temps tout l'amour qu'il a pour elle. Et ça, c'est même dans la langue. Et en lui parlant de Rizière, eh bien, il l'a fait revivre dans un paysage qui était le leur avant. Et puis ensuite, on comprend tout de suite que la catastrophe a suivi et que le paysage ne sera plus jamais le même.
Sokofay, vous êtes à l'initiative de cette réflexion, le paysage après coup, 40 ans après le génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge, où plus de 20% de la population, donc un Cambodgien sur 5, a perdu la vie. Alors malgré l'ampleur des massacres, il y a finalement très peu de traces dans le paysage, qu'il soit d'ailleurs rural ou urbain. Nous allons également parler des villes. Quelles questions ça vous pose en tant qu'historienne de l'art ? Quel est le début de votre réflexion par rapport à ce sujet ?
Ce qui m'a intéressée dans le travail des artistes contemporains, dont fait partie Ratanavandi, qui fait partie de la génération de la post-mémoire, c'est-à-dire née après le génocide, et comment ils inventent des procédés artistiques pour interroger à la fois la question de la mémoire et du paysage. Et ça m'a fait penser à ce que dit Jean-Christophe Bailly, où il fait le rapport entre l'invention, donc l'invention est très importante dans le domaine de l'art, et la question de l'exhumation des vestiges. Et il rappelle que le mot invention vient du latin invenire, qui veut dire trouver, et donc en archéologie, inventer, c'est l'acte de faire émerger les vestiges. Et il me semble que les artistes d'aujourd'hui, dont fait partie Ratanavandi, exhument, fait ressortir les vestiges du passé pour nous interroger dans notre présent politique.
Et c'est au sein de sa propre famille que Ratanavandi a tenté de briser le silence autour de la disparition de sa sœur, comme il nous l'explique en présence de son épouse Sarah, que je remercie pour sa traduction.
En fait, dans ma famille, on parlait très peu des Khmers rouges. Mes parents en parlaient très rarement. J'ai commencé à poser des questions à mes parents parce que j'ai commencé à lire des livres d'histoire. Et j'ai découvert que mes parents avaient beaucoup de choses cachées à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en 2009, j'avais l'intention de tourner un film dans lequel je posais beaucoup de questions à mes parents. C'était en 2009 et donc c'était toute une série de questions sur comment mes parents avaient traversé l'époque Khmer Rouge. Mon père voulait répondre, mais ma mère restait toujours à l'écart. Mais le problème avec mon père, c'est que quand je lui posais des questions, il répondait toujours de manière diplomatique. Et en fait, c'était quand j'éteignais la caméra qu'il disait tout. Et notamment, il m'a parlé du moment où ma grande sœur, donc qui s'appelle Sreito, était sur le point de mourir de faim.
Et ta pe kwat lai thoe ka da yo thai nung tuk kalai nam chhe chop ka ngi mo mue ta thai nung vibat hai ko kwat ko chop ta we ba pe to nung ko chop tiet ta.
Et après par exemple il arrêtait de parler.
Le silence des familles rescapées du génocide perpétré par le régime communiste de Pol Pot au Cambodge, un pays où la mémoire de la violence extrême des Khmers rouges ne se dit pas, ne se transmet pas naturellement. Un silence auquel se heurte l'artiste Ratanavondi au sein de sa propre famille, mais qu'il a réussi à rompre en développant un projet de film sur la mémoire de sa sœur assassinée. Son père va finir par dessiner une carte sommaire de la tragédie afin que Ratanavondi puisse identifier le paysage sépulture de sa propre sœur.
C'était dans la province de Battambang, dans le nord du Cambodge, à peu près à 50 km des temples d'Angkor. Et quand je suis arrivée dans le village, j'ai demandé au chef de village s'il connaissait des endroits où on avait enterré les gens à l'époque Khmer Rouge. Et il m'a dit, en fait, il y en a beaucoup autour.
Et ensuite,
il m'a accompagné jusqu'à l'endroit, la fosse commune, où avait été enterrée Sreito, ma grande sœur. Et l'endroit où elle avait été enterrée, c'est devenu une rizière normale. Et le propriétaire en fait, de la rizière m'a dit que si on creusait à peu près un mètre en dessous, on pouvait trouver des ossements. À cet endroit-là, il y avait deux manguiers Pumsan. Et sur la gauche, il y avait un bosquet de bambou. Et mon père m'avait dit, probablement maintenant, ce bambou est très très grand. Apparemment, c'était là que ma grande sœur était enterrée. À ce moment-là, j'ai eu un très très grand choc. Et à ce moment-là, je me suis dit que l'absurdité existait vraiment. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien, même pas l'intelligence qui pouvait arrêter cette absurdité. Et ce qui m'a fait le plus peur, ce qui m'a le plus choqué, c'était d'apprendre que les gens pouvaient en fait faire la rizière sur une fosse commune, sur un endroit où on avait enterré les morts. Même en ayant lu plusieurs livres d'histoire, je n'avais jamais entendu parler de ça.
Vous ne connaissiez pas l'existence de milliers de fosses communes dans votre pays, le Cambodge?
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le paysage au Cambodge, mais peut-être aussi derrière beaucoup d'autres paysages dans le monde, pas qu'au
Cambodge.
Par exemple, quand je marche dans ce paysage, je ne sais pas vraiment quel est le sens de la beauté. On voit le soleil, la rizière, on sent le vent, on entend les voix. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la terre? On
ne
sait pas vraiment où est la beauté réelle du paysage.
Nói rằng mày bà bây giờ đã nói về đối với việc đăng cái việc đăng rương nhân tới plaisir.
Et quand, quand on connaît l'histoire réelle qui s'est passée, le plaisir de regarder le ciel ou le paysage disparaît complètement.
Comment contempler la beauté d'un paysage de Rizia lorsque l'on sait que sous les manguiers qui le bordent réside un charnier de 5000 Cambodgiens ? C'est le choc esthétique et psychologique de l'artiste Ratana Vandi. C'est aussi le choc intellectuel que vous avez choisi de dépasser en le questionnant, ce que faille.
Oui, dans l'enjeu de notre colloque, c'est est-ce qu'on peut lire l'histoire avec un grand H ? Est-ce qu'on peut lire dans le paysage les meurtres de masse ? Puisque très souvent, soit les génocidaires effacent eux-mêmes les traces, soit les années passent et la nature finit par reprendre le dessus. Et donc, la réflexion autour du paysage mémoire interroge justement cet après-coup. Et que dans l'après-coup, il y a la question de reconstruction, de reconstitution du souvenir du paysage. Le passé est passé, mais ces effets continuent à perdurer jusqu'à encore aujourd'hui.
Annette Becker.
On disait tout à l'heure, dans l'interview, l'artiste parlait d'engrais humain. Et donc, de la mort, quelque part née de la vie. Donc on a d'immenses cimetières où il y a des morts, mais ces cimetières redonnent la vie parce qu'elles donnent la mémoire et qu'elles permettent cette perpétuité, quelque part, de la condamnation qui devient la perpétuité. On va savoir que ça s'est passé et donc on va pouvoir y réfléchir et peut-être faire son deuil aussi.
J'aimerais qu'on pose cette question au fond du statut du paysage. Luba Jorgensen, vous diriez que le paysage lui aussi est victime ? Est-ce qu'il est bourreau ? Est-ce qu'il est témoin ?
Moi, je dirais que le paysage englobe en fait les trois dimensions.
C'est-à-dire
victime, bourreau, témoin. En fait, si on reprend les catégories de Raoul Hilberg, il est bourreau dans la mesure où il peut être l'allié des criminels ou des responsables des violences de masse, puisque le paysage la nature va créer les conditions pour réaliser ces violences. Par exemple, dans les contrées inhospitalières, avec les grands froids, ou parce qu'il rend impossible l'évasion, ou parce qu'il y a des marécages, etc. Et en même temps, le paysage subit aussi la violence, puisque les grandes entreprises de terreur ont consisté également à transformer le paysage et à soumettre le paysage à des projets industriels ou des projets de transformation de l'environnement. Et en même temps, le paysage est témoin aussi, non pas parce qu'il rend visible immédiatement ce qui s'est passé, mais parce qu'il constitue une médiation entre le visible et l'invisible, et cette dialectique du visible et de l'invisible, elle est déjà présente sous la terreur, puisque très précisément, les régimes de terreur cherchent à rendre invisibles les violences, mais pour ça vont faire émerger une autre visibilité à travers la propagande, par exemple, vont chercher à créer du visible. Et cette dimension de ce rapport entre le visible et l'invisible, on va le retrouver d'une façon très différente, mais dans le paysage. Et lorsqu'on est face à un paysage, à un lieu de massacre ou à un ancien lieu de détention, effectivement, ce qui s'est passé entre dans l'histoire de ce lieu. Et en fait, l'effacement de la mémoire qui s'est opéré à travers le paysage, que ce soit la nature qui agit ou que ce soit les hommes, cet effacement-là devient une nouvelle violence. Ce qui fait qu'une nature qui apparaît comme ne portant pas de traces, en fait, porte de nouvelles cicatrices de la disparition de ces traces.
Cambodge, le paysage après coup, c'est une expo, un colloque et une émission de radio. Restez avec nous, c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI, une émission enregistrée à Metz à l'occasion du colloque et de l'expo Le paysage après coup, inaugurée en décembre dernier. Nous avons partagé une rencontre fructueuse entre universitaires et artistes, tous préoccupés par la façon dont les crimes de masse ont pu laisser ou pas des traces dans le paysage. Une question particulièrement pertinente pour les artistes cambodgiens ici présents et notamment pour Sarret Sbai, puisque le génocide perpétré par les Khmers Rouges entre 1975 et 1979 a été pratiquement effacé du paysage et des mémoires. Pour Sarret Sbai, qui a grandi dans un camp de réfugiés, ce poids du silence est terriblement pesant dans la société et c'est pour provoquer la parole qu'il a choisi de tirer un énorme boulet à travers son pays, le Cambodge.
Moi, je veux que mon boulet, ça soit visible pour tout le monde, comme une poids de l'histoire vécue pendant la guerre, pour exprimer le souvenir de la violence et le souvenir de vécu pendant mon enfance dans le camp de réfugiés pendant la période de la guerre, on dit la guerre civile, entre guillemets, au Cambodge. Et pour moi, je fais cette boulet-là, c'est pas seulement pour la visibilité des choses, mais aussi pour l'utiliser comme un miroir de réflexion.
La mémoire du génocide au Cambodge, tirée comme un immense boulet par l'artiste Sarret Sbai entre Siem Reap et Phnom Penh sur 320 km. C'est aussi une performance filmée et présentée ici à Metz dans le cadre de l'exposition Le paysage après coup dans le centre d'art Faux Mouvement et c'est aussi l'intitulé de votre colloque Sokofai. Est-ce que ce poids du passé est alourdi par le fait que ce passé soit indicible au Cambodge?
Ce passé est non seulement indicible, mais il est aussi inaudible. Et Sbai Sarret, qui a traversé enfant les 4 années sous le régime Khmer Rouge, et puis aussi il a vécu jusqu'à ses 19 ans dans un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Et donc son boulet, qui est aussi le mien, c'est justement de pouvoir négocier pour que ce boulet soit pas trop lourd à porter. Eh bien, on peut comprendre son travail si on fait le lien avec une performance qu'il a fait en 2008 en France. Parce que, justement, lorsqu'il a fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Caen, lorsqu'il a présenté ses travaux, les membres du jury lui ont dit qu'en fait, son travail sur la guerre, sur sa douleur, était trop narratif et qu'il fallait qu'il dépasse tout ça. Il est tombé en grave dépression. Et donc, les médicaments français et occidentaux ne fonctionnaient pas. Il s'est souvenu que lorsqu'on tombe malade, il y a une médecine traditionnelle au Cambodge. On met du camphre et on prend une pièce de monnaie et on frotte très 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 fort jusqu'à guérir. Et il l'a fait sur lui-même, il est guéri et ça lui a fait comprendre qu'en fait, non seulement la peau garde une mémoire, mais que la terre garde aussi une mémoire. Et notamment, il a tiré un bouclier en fer derrière son vélo de Caen à Paris pour une sorte de catharsis, pour dépasser sa douleur. Donc lorsque il tire son bouclier de Caen à Paris ou son boulet de Siem Reap à Phnom Penh, c'est aussi comme frotter la terre qui a cette mémoire, qui a engorgé tous ces cadavres, tout ce sang. Et donc c'est une manière aussi de guérir. Et donc guérir pour lui, c'est assumer cette tragédie, assumer la période, ce qu'on a vécu, les guerres civiles, le génocide et tout, et en même temps se réapproprier l'histoire pour être sur le chemin de la guérison.
Je pense que l'expression française « mon boulet », tout le monde ne comprend pas, surtout dans la société cambodgienne. Mais moi, je veux faire que mon boulet soit visible pour tout le monde, pour que ça soit vu de loin.
Quelle est la taille de votre boulet?
Il fait 2 mètres de diamètre.
2 mètres de diamètre.
Il pèse 80 kilos. Le métal, surtout le métal à l'intérieur et l'aluminium. En fait, moi, je fais ça, c'est plus une performance, mais je veux qu'il soit partagé en termes de réflexion, qu'il soit partagé en termes visuellement, partagé par les gens qui voient ma performance. Et pour moi, ce fait cette boulet-là, c'est pas seulement pour la visibilité des choses, mais aussi pour utiliser comme un miroir de réflexion.
Vous voulez partager ce poids
du passé ? Ce poids, voilà. Moi, je veux que mon boulet, ça soit visible pour tout le monde, comme un poids de l'histoire vécue dans la guerre, pour exprimer le souvenir de la violence et le souvenir de vécu pendant mon enfance, ma vie d'enfant, que j'ai vécu pendant 13 ans dans le camp de réfugiés, pendant la période de la guerre, on dit la guerre civile, entre guillemets, au Cambodge.
Votre interpellation des autres êtres humains, est-ce qu'elle fonctionne aussi dans votre propre pays au Cambodge, c'est-à-dire par exemple lorsque vous traversez votre pays avec cette énorme boulet de métal que vous traînez de Siem Reap à Phnom Penh, quelle réaction autour de vous ?
Les gens qui sont surpris et ils regardent comme ça et à la fois ils approchent par la curiosité, ils approchent, ils demandent pourquoi c'est fait ça et se les laisser exprimer et écrire quelque chose sur mon boulet. Il y a des phrases écrites par les enfants, c'est tellement intéressant, par exemple I want to be loyal.
Je veux devenir avocat.
Et l'autre qui écrit que mon père m'a dit que la corruption, c'est pas bien. Juste l'enfant de 10 ans ou 12 ans qui écrit quelque chose comme ça. Moi, quand je fais une petite pause, je regarde tout, écriture sur mon boulet, c'est comme une passe historique cambodgien qui traverse le temps.
Et est-ce que justement, des phrases mémorielles sur cette période de l'histoire au Cambodge, qui est celle de la période des Khmers Rouges, qui est très peu évoqué dans votre propre pays. Est-ce que là, ça a suscité des expressions, des interpellations écrites sur votre boulet en ce qui concerne cette mémoire particulière ?
Il y en a plus que ça. Il y a un moment, quand je suis arrivé à Kampong Thom, il y a un monsieur qui l'âge de presque 60 ans, l'âge de mon grand frère, il me suit en vélo. Et il y a un moment, il a arrêté, il dit, je suis très curieux, est-ce que je peux vous poser des questions ? C'est dit, oui. Et je lui demandais, pourquoi vous voulez me poser des questions ? Et il me dit lui-même, tout de suite, il dit que quand je vous vois traîner avec votre boulet, votre balle en métal comme ça, ça me fait penser quand j'ai travaillé dur pendant la période Khmer Rouge. Et du coup, il a continué à me suivre en vélo, il parlait de son histoire personnelle. Après, il a dit, vous pouvez arrêter, voilà, j'aimerais bien parler avec vous. Du coup, je prends vraiment à peu près 2 heures, discuter avec lui et parler toute l'histoire vécue pendant la Khmer Rouge. C'est pour ça que je dis que c'est comme un miroir de réflexion.
Un miroir de réflexion.
Parce que les gens qui voient lui-même à travers le miroir, et ils voient le passé, tout ce qui se passe dans le passé, qu'il y a un lien direct en temps réel dans le paysage dans lequel se traversait.
Sarah Zweig, avec sa performance artistique en traînant son boulet de 2 mètres de diamètre à travers le Cambodge, suscite la parole, déverrouille cette mémoire silencieuse au Cambodge. Luba Jorgensen, l'effacement des traces, une question à laquelle vous êtes également confrontée. Vous cherchez des réponses à cette relation entre le paysage et la mémoire dans la littérature, produite en général après coup par les rescapés du goulag soviétique. Alors, est-ce que eux, ils ont regardé ce paysage prison dont ils ne pouvaient s'échapper dans ces villages de relégation en Sibérie ou encore lorsqu'ils étaient enfermés dans les camps.
Oui, on a chez les témoins, on trouve d'assez nombreuses miniatures paysagères. Donc il y a les victimes qui se tournent vers le paysage de manière différente. Il y a quelqu'un comme Chalamov par exemple qui va utiliser le paysage dans ses textes pour montrer entre autres que la parole du témoin, justement, se construit après coup. Puisqu'il dit, du temps de ma détention, jamais je n'ai contemplé un paysage. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas possible quand on est exténué. Donc tout cela, c'est de l'après coup. Et donc tout ce que je suis en train de vous raconter est une reconstruction. Il y en a d'autres pour qui regarder un paysage peut être aussi un acte de résistance. Puisque le détenu ou le déporté est d'emblée interdit de jouissance esthétique. Et donc, s'accorder cette jouissance, même dans un après-coup, est un acte de résistance. Cela peut être aussi de la résignation, parfois, puisque regarder le paysage, ça peut être s'accommoder d'une certaine façon des conditions qui sont imposées. Accepter cet accompagnement hostile. Donc on a toutes sortes de comportements, d'autant plus qu'il y a des constructions paysagères réalisées aussi, enfin des tentatives de créer une trace paysagère aussi par les criminels à travers la propagande. en tout cas dans le cas du goulag, puisque les goulags étaient aussi des ensembles industriels, ces destructions du paysage, cette mort du paysage traditionnel va être présentée comme le début d'un monde nouveau.
Un paysage nouveau pour un homme nouveau, un homme soviétique.
Absolument.
Annette Becker, cette question du paysage dans l'histoire des violences, notamment contre les civils, dans la guerre, vous l'avez également envisagée pour ce colloque, le paysage après coup. Et les images que vous nous montrez sont traversées par des lignes, mais par des lignes de barbelés. C'est un stigmate.
Oui, je vais revenir au boulet. Parce que ça m'a beaucoup frappée. La façon dont cet artiste, d'une sophistication incroyable, d'une part, utilise une métaphore, mais l'objet n'est pas une métaphore. Le boulet, c'est du métal. C'est du métal et c'est vraiment la base de la guerre industrielle à partir du moment où elle existe. Et il me semble qu'avec son boulet, il apporte l'épaisseur de la mémoire. C'est ce qu'il veut faire. Mais il apporte en même temps l'épaisseur de l'histoire. Et je pensais aussi que les boulets, c'est ce qu'on met aux jambes des galériens et surtout des esclaves. Et on parlait tout à l'heure de ces cimetières, de ces paysages cimetières. Et on dit souvent, et on est le 27 janvier, donc c'est important de le rappeler, que Birkenau est le plus grand cimetière de l'histoire. Eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. Le plus grand cimetière de l'histoire, c'est l'océan Atlantique, où sont morts ces millions d'esclaves qui ont été transportés entre l'Afrique et l'Amérique et qui ne sont jamais arrivés. Et donc, son idée de ce métal, de ce boulet, de tout ce que ça représente, et le fait que j'avais préparé pour venir dans cette conférence formidable avec cette rencontre avec les spécialistes de l'histoire, de l'archéologie et ces artistes, j'avais préparé quelque chose sur le barbelé, ça m'a vraiment extrêmement frappée. C'est-à-dire que l'industrialisation de la guerre permet l'industrialisation avant tout de la mort, et que finalement, si on veut comprendre ce qui s'est passé, on le voit soit dans le paysage, on le voit aussi dans la tête des hommes. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la rencontre entre la tête de celui qui se rappelle ou qui se rappelle pour les autres. Parce que ces jeunes Cambodgiens ne se rappellent pas, mais ils sont dans la post-mémoire, ils sont dans le rappel de ce qui a été vécu avant. Donc ils font le même travail que nous faisons comme historiens. Mais leurs archives peuvent être des vraies archives et un boulet, ça serait une vraie archive. Et on vit sans arrêt dans ces analogies. Et c'est ces analogies qui nous permettent de comprendre en profondeur la souffrance qu'on essaye de tous de trouver, la souffrance des êtres ou la souffrance des paysages. Et ce miroir dont il parle, et ben c'est ça notre travail et peut-être un peu trop notre passion.
Annette Becker, j'aimerais que l'on parle aussi des paysages en opposition, en tout cas, au paysage naturel, on va dire paysage urbain. Et est-ce que déjà le camp de réfugiés, c'est déjà un paysage urbain ?
Oui, tout à fait. Je crois que toute concentration peut être appelée urbaine dans la mesure où on construit quelque chose. Mais ce qui est frappant, c'est que quand on invente les premiers camps d'enfermement, eh bien, en fait, on les invente plutôt dans le rural. Et c'est peut-être parce qu'on est encore à la fin du 19e siècle, à Cuba, ou au début du 20e siècle, en Afrique du Sud, puis dans l'Anatolie. Et on utilise le froid ou le chaud,
ou les deux,
pour enfermer dans la nature. Et la nature devient elle-même meurtrière. Mais quand même, on n'est pas sûr que ça va marcher tout à fait. Et donc, on met quand même du barbelé. Et donc, le contraste entre la facilité de faire mourir de soif quelqu'un dans un désert, c'est assez facile, en fait. Mais il faut quand même un peu de barbelé. Et cette industrialisation du paysage pour arriver à exterminer les gens, c'est quelque chose qui est quand même incroyablement frappant. Et il y a eu des exterminations dans le passé, mais on voit bien là le passage au génocide, l'organisation, l'intention qui a besoin à la fois de la nature telle qu'elle est, qui est utilisée, mais dans laquelle on construit en plus. Et la construction, c'est souvent d'amener au bon endroit les victimes.
En ce 27 janvier, journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, nous écoutons le témoignage de Sarah Zweil. Il avait 3 ans en 1975, lorsque le génocide perpétré par les Khmers Rouges a commencé. Réfugié dans un camp à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, c'est là qu'il a grandi et c'est là qu'il développe sa pratique artistique. Artiste internationalement reconnu, les sculptures, installations et performances de Sarah Zweil sont faites de procédés de matériaux associés à la guerre.
Alors moi, je suis né en 1972. Et vous savez, un gamin de 6 ans, il suit toujours la décision des parents. Donc moi, je me réveille à 6 ans et ma mère m'a dit que oh, ton père n'est pas là et il est parti dans le camp de réfugiés. Donc il faut qu'on le suive un jour. C'est la première fois aussi que j'ai entendu parler de mon père. Parce que pendant le Khmer Rouge, ma mère est partie toujours travailler et laisser les enfants, bah, comme les autres familles, hein, laisser les enfants 3 ans, 4 ans, 5 ans à la maison, surveillés par grand-mère ou bien par quelqu'un nommé par l'organisation Khmer Rouge. Donc finalement, un jour, elle a décidé qu'on doit partir dans le camp pour chercher mon père à la frontière thaïlandaise. Et voilà, donc à travers ce voyage, j'ai vu tellement de choses. Les gens qui mouraient de faim tout le long de la route, la violence partout, des mines voilà, qui explosaient. Et du coup, je me souviens quand je suis arrivé dans le premier camp, ça s'appelait Ampil. Ampil, c'est un camp qui est assez proche du territoire thaïlandais. Et c'est pour l'instant, il y en a quelques maisons, pas maisons, c'est un temps bleu qui fait comme des campings. Mais du coup, voilà, c'est vécu ma vie, ça a commencé par là, vivre dans le jungle et avait rien du tout. Et je me souviens, à cette époque, je pleurais beaucoup et j'ai posé des questions à mon père, pourquoi on est là. Et mon père m'a dit, ben, j'attends que le pays, que ça soit bien, parce que je crois en la démocratie.
Aufrac Lorraine, vous montrez donc deux œuvres. Aufrac Lorraine, vous montrez votre vidéo, votre boulet, le poids de toute cette histoire personnelle, familiale. Et puis vous avez aussi décidé de monter une tente de réfugiés. Vous vous y êtes pris comment et pourquoi ?
Ça, c'est la cinquième fois que se fait Warning House. Warning House, ça veut dire que c'est une maison, une alerte.
Une maison d'urgence.
D'urgence. Une maison, voilà, exactement, une maison d'urgence qui est construite par les matériaux récupérés dans les poubelles, qui est rejetée par la société riche de consommation. Et parce qu'il y a le bois, il y a des cartons, il y a des plastiques. Les matériaux que j'ai vus, ma mère et mon père qui fait la maison dans le camp des réfugiés. En 2013, j'ai participé à un festival artistique à New York.
À New York.
Ils l'ont invité, les artistes dans tous les domaines, qui fait un énorme festival culturel à New York. Donc l'idée de partir là-bas, c'est penser à New York, pour moi, c'est une ville de rêve, de savoir, de connaître, de découvrir. C'est une symbolique forte en démocratie parce qu'il y a un lien direct avec la parole de mon père qui croit en démocratie. Mais quand je suis arrivé là-bas pendant une semaine, toutes mes idées en tête s'est complètement changé.
Pourquoi ?
Parce que c'est découvrir que New York, c'est une ville très moderne mais très contrôlée par le système surveillant. Je suis tellement en colère quand j'ai vu la vidéo surveillant qui est installée dans mon atelier.
Une caméra de vidéosurveillance.
Je ne peux pas travailler, faire la création que il y a quelqu'un qui regardait derrière moi, en face de moi ou derrière moi, regarder ce que se fait. Et du coup, j'ai décidé de commencer à créer Warning House, premier Warning House New York.
Première tente d'urgence.
Ramasser tous les ordures dans le poubelle, c'est construire une maison pour escaper de caméras surveillantes, pour créer ma propre territoire libre, l'expression.
L'expérience new-yorkaise de l'artiste Sarah Zweil qui montre ici à Metz ses œuvres et notamment ce travail autour de ce qui a été très longtemps sa maison, c'est-à-dire la tente du réfugié avec un vécu en démocratie qui finalement s'inverse pour lui. Là où il pense trouver la liberté, il le vit en réalité comme un nouvel état de surveillance et de contrôle. Sokofay.
Oui, je pense qu'il a réussi à transformer l'expérience douloureuse, la précarité, toutes ces années où il a vécu derrière les barbelés et de non-sens, de non-liberté. Et il a réussi à l'intégrer, à le travailler, à l'élaborer pour, dans un autre état, notamment entre guillemets de démocratie, de liberté, eh bien, il arrive à retrouver l'expérience vécue pour se reconstruire autrement, se reprotéger et donc de reconvoquer cette maison d'urgence pour justement se protéger du regard extérieur quand ce regard extérieur veut s'infiltrer, veut dominer. Et donc je pense qu'avec ce qu'il a vécu, il a acquis des stratégies de survie et donc des stratégies de protection aussi.
Annette Becker.
Moi, je pense que c'est le cas de tous les réfugiés. Je suis persuadée que l'expérience la plus terrible de la vie, c'est d'être déraciné à un moment ou à un autre. Quelle que soit la façon dont on est déraciné, la violence, et en particulier pour un enfant, est énorme. Ensuite, tout est un problème de représentation. Et c'était très intéressant ce qu'il disait. Parce que pour la plupart, y compris des Américains, New York est vraiment la ville de la liberté, parce que c'est un chaos complet, etc.
Avec sa statue de la liberté,
voilà,
bien sûr.
Et ça commence par la statue de la liberté, où pour y aller, c'est très très... À l'heure actuelle, on est extrêmement surveillé. On passe entre deux lignes de barbelés parce qu'on doit être surveillé, parce que l'endroit est devenu dangereux à cause du terrorisme. C'est l'ironie. Et Sarrazvai, qui est un artiste formidable et qui a beaucoup d'ironie, je crois que là, tout d'un coup, son ironie s'arrête réellement parce qu'on voit le trauma qui remonte. Et il a vécu tellement de temps dans une surveillance épouvantable que la surveillance pour sa sécurité est absolument insupportable. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça pour comprendre tous les êtres humains, mais en particulier ces artistes. Leur façon de faire, c'est finalement de se débarrasser de la métaphore pour retrouver la vérité de leur vie.
Et pour terminer justement sur une image forte et symbolique de cette absence de traces et de mémoire du génocide perpétré par les Khmers Rouges au Cambodge, votre pays de naissance, Sokofay, j'aimerais que vous nous fassiez partager une image d'archive incroyable qui est cette traversée de la ville de Phnom Penh juste après le départ des Khmers Rouges en 1979.
L'origine de ce projet, en fait, c'est un travelling qui montre la ville Phnom Penh vide, la ville fantôme. Deux Allemands de l'Est ont filmé pendant 3-4 minutes où ils n'ont croisé personne. Et ils ont fini par croiser ici des oiseaux. Et c'est les seuls occupants de la ville de Phnom Penh. Et donc dans ces ateliers laboratoires, nous avons proposé, dans le cadre de cet atelier, aussi bien aux Cambodgiens et aux Français qui sont venus, de travailler ensemble et de refaire cette séquence. Et donc on a mis 45 minutes pour faire exactement ce plan séquence.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation.
Il y a énormément de circulation. Et donc c'était intéressant de voir Phnom Penh il y a plus de 40 ans, ville fantôme, et aujourd'hui, ville remplie, mais rien n'a changé. Toutes les structures, l'architecture des maisons sont restées intactes. Ce qui change, c'est les rajouts, les devantures. Mais la ville n'a pas changé. Et c'est ça qui était frappant, mais on n'a pu le voir qu'à l'image. C'est-à-dire l'expérience du corps, lorsqu'on est dans le mouvement, on ne voit pas parce que tout est saturé, le bruit, les personnes. Mais c'est à l'image qu'on voit justement que la Phnom Penh a perduré.
On retrouve donc l'urbanité de Phnom Penh, son plan urbanistique, ses lignes, ses rues, ses bâtiments. Mais est-ce que pour autant Phnom Penh a récupéré sa mémoire ?
Je dirais que je parlerai de Diamond Island, qui est une presqu'île dans le sud de Phnom Penh, qui pour moi, c'est le monument de l'oubli. Puisque sur cette île se construit énormément de grands bâtiments, qui est un pastiche des villes, des quartiers à l'occidental, des immeubles haussmanniens, un arc de triomphe sur ce Diamond Island, c'est des pastiches, c'est-à-dire construire un paradis kitsch pour les riches, les nouveaux riches au Cambodge. Et pour moi, ce sont, comment dire, des ruines vivantes. C'est abandonné, c'est inachevé dans ces bâtiments. Et ça fait très peur parce qu'on a l'impression que y a quelque chose qui revient, une sorte de fantôme, quelque chose qu'on n'a pas réglé avec Phnom Penh, la ville fantôme, il y a plus de 40 ans, lorsque les Khmer Rouges ont déporté toute la population. Et aujourd'hui, Phnom Penh, avec Diamond Island, qui a complètement à la fois effacé la culture locale, la tradition et tout, pour construire à la place des immeubles qui est un non-sens pour les Cambodgiens, mais qui fait plaisir aux riches d'avoir un style de vie à l'occidental. Et pour moi, Diamond Island, avec ses ruines vivantes, ça symbolise ce monument de l'oubli.
Il va falloir que Saretzva aille faire un tour avec son boulet de 2 pattes de diamètre. Je vous remercie immensément, toutes les trois.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et merci au FRAC Lorraine de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de ce nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Elliot Bourrel. Et si vous passez dans l'Est de la France, ici à Metz, prenez le temps de venir faire un tour au Centre d'art Faux Mouvement pour découvrir les œuvres de Vatana Randi et de Saretzva, et bien sûr de tous les autres artistes cambodgiens de l'exposition Le Paysage Après Coup. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission et également sur rfi.fr où vous pouvez nous écouter à tout moment. Exprimez-vous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.